Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, le Hezbollah a attaqué Israël, vous le savez. On parle des conséquences de cette attaque sur la politique mondiale et au Moyen-Orient avec Daniel Haber, justement. Il est au micro de Blaise van der Linden.
Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Blaise, bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Dans le cadre de nos conversations, nous focalisons sur la géopolitique mondiale, plus principalement depuis le 7 octobre, sur la géopolitique au Moyen-Orient. Dans la nuit de samedi à dimanche, le Hezbollah a attaqué Israël avec nombreux drones qui ont été arrêtés par le bouclier du Dôme de Fer. Alors, pour l'instant, on ne parle plus de cesser le feu à Gaza, mais dans la géopolitique mondiale, qu'est-ce que cette attaque signifie?
Bon, ben, vous avez remarqué que les deux sont liés. C'est-à-dire que c'est dès qu'il a été clair qu'Israël ne signerait pas un mauvais cessez-le-feu avec le Hamas, le Hezbollah et derrière le Hezbollah l'Iran avait dit que tant qu'il y avait un espoir de signer un accord à Gaza, ils n'attaqueraient pas. Puisque cet espoir a disparu, ils ont immédiatement attaqué. Donc ça dit en fait deux choses principales et j'ajouterai un troisième commentaire sur les États-Unis, ce qui se passe aux États-Unis puisque Kamala Harris a été certifiée candidate. Alors d'abord sur Gaza. Pourquoi il n'y a pas de cessez-le-feu? Vous savez que chaque semaine, on en parle, vous et moi, et à chaque fois, on conclut la même chose. Il n'y aura pas d'accord de cessez-le-feu, tout simplement, et on le sait, parce que le Hamas n'est pas intéressé par un cessez-le-feu, tout simplement parce qu'il a perdu depuis très longtemps la guerre militaire. Par contre, il a gagné la guerre politique, puisqu'il est devenu le héros de la cause palestinienne vis-à-vis des Palestiniens, dans le monde musulman tout entier et dans le monde occidental, dans tout ce qui compte de wokistes, extrémistes et idiots utiles. Et donc, il aurait tort de ne pas continuer à engager des gains politiques. Alors, il est prêt, évidemment, à signer un accord de cessez-le-feu, à condition que ce soit à ces conditions. Or, ces conditions, que je vais rappeler, elles sont inacceptables, pas seulement par le gouvernement de Netanyahou, mais par n'importe quel gouvernement israélien, quel qu'il soit. Parce que ce qu'il veut, c'est rester à Gaza. Au fond, Sinwar a eu la bonne surprise de toujours en vie, d'avoir autour de lui 5 à 6 000 militants, que les tunnels sont pas tous détruits et qui donc il reste une capacité d'une part de causer des dommages aux soldats de Tsahal et deuxièmement il peut se reconstituer. Pour ça il faut que Tsahal s'en aille, donc c'est ça la condition. Il dit ça, allez-vous, allez. Et surtout c'est la clé, on l'a dit à plusieurs reprises, partez de cette frontière entre Gaza et l'Égypte qui s'appelle le corridor de Philadelphie, parce que c'est par ce corridor que nous on va se réapprovisionner, le Hamas, immédiatement en armes et pour reconstituer nos tunnels. Donc, c'est ça qu'on veut. Et évidemment, l'Égypte, qui fait partie des médiateurs de la négociation, appuie le Hamas pour qu'Israël quitte la frontière, alors qu'on voit bien que l'Égypte joue un double jeu hostile à Israël. Dernière chose, contre les otages, Hamas exige la libération de tant de prisonniers, importants, qui sont autant de futurs Sinoirs, que personne n'accepterait ça. Et une grande partie de la famille des familles des otages, quand ils ont connu les conditions, ont décrété qu'il fallait pas céder. Donc tout le monde maintenant sait qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu à Gaza. Et donc, j'en viens à ma deuxième commentaire. Immédiatement, l'Iran et le Hezbollah ont dû se réunir pour dire, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comme ils disent assez bêtement, on a le devoir et on a le droit de riposter aux attaques israéliennes. Personne n'a le droit d'être stupide. Et donc, toute attaque, soit de l'Iran, soit du Hezbollah, est stupide. Et ils ont choisi cette attaque stupide, mais l'Iran a choisi de sacrifier le Hezbollah. Pas de ce... Donc là, l'Iran reste bien caché, et c'est le Hezbollah qui s'est sacrifié. Et on s'est retrouvé dans une situation qui ressemble à celle du 14 avril, c'est-à-dire que le Hezbollah a au fond presque prévenu qu'il allait envoyer des drones et des missiles sur Tel Aviv, puisque Israël l'a appris une heure avant. Et qu'une centaine de bombardiers, alors il faut imaginer ce que c'est que des escadrilles de 100 bombardiers israéliens, c'est énorme, hein, c'est une vraie guerre, hein, et qui est allée détruire des milliers de sites du Hezbollah. Donc le prix que Hezbollah a payé pour sa folie est très élevé, donc c'est une très bonne affaire pour Israël. La plupart, alors il a envoyé 350 missiles, exactement le même nombre que l'Iran avait envoyé sur Israël au 14 avril, et ils ont tous été centrés sur Tel Aviv, comme c'était le cas pour l'Iran, et ils ont tous été arrêtés. On ne sait pas encore dans quelles conditions, est-ce que c'est uniquement par le dôme de fer, est-ce qu'il y a eu de l'aide américaine, c'est très possible, on le saura un peu plus tard. Donc si vous voulez, l'escalade, elle est terminée, puisque immédiatement le Hezbollah a dit « j'ai fini », s'empresse bien de dire j'ai fini. Donc et au fond la riposte d'Israël, au lieu de se faire après l'attaque du Hezbollah, elle s'est faite une heure avant. Et donc on peut considérer que cet épisode de la vengeance obligatoire de l'Iran et de du Hezbollah est terminé. Donc on se retrouve avec la situation précédente et dans une situation, et c'est mon dernier commentaire, où maintenant la campagne américaine a commencé. Maintenant on a les deux candidats. Il n'y en a pas de troisième puisque Robert Kennedy a rejoint Trump. Je pense que John Kennedy et Robert Kennedy, le grand-père, doivent se retourner dans leur tombe en voyant le jeune Kennedy rejoindre Trump. Et aujourd'hui on a une Kamala Harris qui va mener une campagne sur des thèmes intérieurs, purement intérieurs, c'est-à-dire l'inflation, l'immigration, l'avortement, les libertés. Elle a dit ce qu'elle avait à dire pendant dans le discours de réception sur Gaza. Elle a trouvé un discours assez équilibré. Nous sommes derrière Israël, mais nous voulons un État palestinien. Je pense que c'était le minimum qu'elle avait besoin de dire pour rallier à sa campagne l'aile gauche du Parti démocrate, qui elle est très pro-palestinienne. Donc on aura une campagne qui oubliera Israël. Par contre, le président reste Biden. Biden, il a les mains libres. On sait que c'est un vrai ami d'Israël. Donc, il soutiendra Israël jusqu'au bout. Sa seule limite, c'est de faire pression sur Israël pour qu'Israël n'attaque pas. Parce qu'évidemment, Israël n'a qu'une envie, c'est détruire le Hezbollah et détruire les sites nucléaires iraniens. Donc, c'est la balance qui est faite aujourd'hui. Donc, voilà ce qu'on peut dire de la situation politique actuelle.
Justement, vous parlez des États-Unis, Daniel Habert, en 3 minutes, si vous le voulez bien, pour nos conversations. Justement, les États-Unis ont-ils un poids toujours aussi dominant dans la région?
C'est le seul, c'est la seule puissance qui est un levier, un impact concret sur ce qui se passe au Moyen-Orient. La Russie, elle est dans sa guerre, elle protège uniquement la Syrie. Or, lorsque Israël attaque des bases militaires en Syrie, c'est des bases militaires iraniennes et elle tue essentiellement des soldats iraniens, ce qui d'ailleurs arrange à la fois la Syrie et la Russie, qui n'est pas hostile à Israël comme on le sait. Donc la Russie n'est pas un intervenant. L'Union européenne, on voit bien qu'elle est divisée. Et puis surtout, les trois grands pays, Grande-Bretagne, France et Allemagne, sont dans des difficultés intérieures très importantes, à la fois économiques. Grosse crise économique en Allemagne et en Grande-Bretagne, et en France ça se profile, et puis crise politique dans les trois pays. Donc il resterait que la Chine. Or la Chine, on en reparlera peut-être à nouveau spécifiquement, mais depuis le début, elle est extrêmement prudente, comme le montre le fait que ces navires qui pourraient naviguer dans la mer Rouge, parce que les Houthis ont promis de ne pas attaquer les navires chinois, préfèrent faire le tour par l'Afrique. Ça les dérange pas plus que ça, parce qu'ils veulent pas être pris, même par hasard, dans la guerre. Donc la Chine ne se prépare que pour l'après-conflit. Donc elle n'a aucun levier aujourd'hui. Il reste les États-Unis et au fond, quel que soit le candidat qui sera élu, on sait qu'on aura des États-Unis qui seront près d'Israël pour une seule raison, c'est que la crédibilité géopolitique des États-Unis dépend de la crédibilité militaire d'Israël au Moyen-Orient. Donc au fond, ils n'ont pas le choix et donc quel que soit le président, aussi bien le ministre de la Défense qui sera nommé ou l'actuel que le patron du Conseil de sécurité des États-Unis, en ce moment Jack Sullivan, recommanderont aux Américains de continuer à soutenir fortement Israël. Donc pour l'instant, la situation d'Israël, elle est ce qu'elle est, elle va durer jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire une situation de guerre d'usure, avec des milliers d'Israéliens qui ne sont pas chez eux, ni au sud, ni au nord, surtout au nord, et avec un balancement aujourd'hui de toutes les forces israéliennes du sud vers le nord. Dans le sud, Israël termine le travail à Gaza, sachant que malheureusement, on ne trouvera pas Sinoir et les otages, sauf miracle, mais enfin, les miracles ne sont pas exclus dans ce pays.
Et vous mentionnez les otages, Daniel. On rappelle que 109 otages sont toujours aux mains des terroristes dans la bande de Gaza ou autre part. On ne le sait pas. Merci, Daniel, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka et on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.